courir ensemble ce matin. Le psaume 73, le texte va s'afficher. Le titre, c'est Changer de perspective. Changer de perspective. Voilà, c'est pour ça que j'ai amené d'autres lunettes ce matin aussi, les lunettes de soleil. Et des lunettes plus normales, je préfère quand même pour voir avec celles-là. Je vous invite à lire dans donc, le psaume 73, on va le lire en entier. Voilà. Afficher les premiers versets. C'est un psaume d'Asaph. Asaph, c'était un des responsables de la louange que David, le roi David, a mis en place dans le tabernacle, et puis après, ça sera dans le temple. Et Asaph a écrit un certain nombre de psaumes, ou en tout cas, ils sont attribués à Asaph. Oui, Dieu est bon pour Israël, pour tous ceux qui ont le cœur pur. Pourtant, j'allais faire un faux pas. Un peu plus et je glissais. Car j'ai vu la prospérité des méchants et j'ai jalousé ces vantards. Jusqu'à leur mort, ces gens-là n'ont pas d'ennui. Ils sont gros et gras. Ils ne partagent pas les difficultés des autres humains. Ils ne sont pas frappés par les coups durs comme les autres. Ils portent l'arrogance comme un collier, ils se drapent de violence, ils sont dans le luxe, leurs yeux reflètent leurs mauvaises pensées. Ils se moquent, ils parlent méchamment, d'un air supérieur. Ils ne parlent que d'opprimés. Ils ouvrent la bouche pour s'attaquer aux cieux, et leur langue n'épargne rien sur la terre. C'est pourquoi tout le monde se tourne vers eux et boit leurs paroles comme de l'eau. Ils déclarent: Dieu ne peut rien remarquer, comment lui qui est là-haut pourrait-il savoir? Regardez-les, ces gens méchants, toujours à l'abri des ennuis. Ils améliorent leur situation. C'est donc en vain que je suis resté honnête et que j'ai lavé mes mains en signe d'innocence. Tous les jours, j'endure toutes sortes de peines. Chaque matin, les châtiments sont là. Mais si je me décidais à parler comme eux, je trahirai la génération de tes enfants. Alors j'ai essayé de comprendre. Mais tout cela m'a paru difficile. Jusqu'à ce que j'entre dans le sanctuaire de Dieu. J'ai alors compris quel sort les attendait. Oui, tu les mets sur une pente glissante, tu les fais tomber dans un piège, et en un rien de temps, ils sont finis, anéantis par une terreur soudaine. Seigneur, dès que tu entres en action, tu les dépouilles. Leur reflet disparaît comme un rêve lorsqu'on se réveille. Quand j'étais plein d'amertume, choqué au plus profond de moi-même, j'étais stupide. Je n'y comprenais rien, comme une brute devant toi. Pourtant, je suis toujours avec toi. Tu m'as saisi la main droite. Tu me conduis selon ton conseil. Tu me recevras avec les honneurs. Qui dans les cieux me viendrait en aide sinon toi, et sur cette terre que désirer puisque je suis avec toi? Mon corps s'épuise, mon cœur aussi, mais mon appui, mon bien le plus personnel, c'est toi, Dieu, pour toujours. Ceux qui s'éloignent de toi succombent. Tu réduis à rien ceux qui t'abandonnent. Mais mon bonheur à moi, c'est d'être près de Dieu. J'ai mis ma confiance en toi, Seigneur Dieu, pour proclamer tout ce que tu as fait. Beau psaume, hein? Magnifique. Un psaume qui se présente comme un chant de témoignage. On pourrait dire un témoignage presque, ce psaume. Le témoignage peut-être de Asaph lui-même, de Monsieur Asaph. Et Monsieur Asaph témoigne de la manière dont Dieu l'a amené à changer son regard sur tout ce qui se passe autour de lui, à changer de perspective. Au premier verset, M. Asaph dit qu'il croit en un Dieu bon. En un Dieu bon. Et pourtant, je ne sais pas si vous avez remarqué, dans la première partie du psaume, à partir du verset 2, M. Asaph témoigne d'une période où il a failli glisser. Dit-il, j'ai failli glisser loin de toi. J'allais faire un faux pas un peu plus et je glissais. C'était l'époque où on pourrait dire Monsieur Asaph, c'était Monsieur Asnif. Hein. Monsieur Asnif, il voit ce qui se passe autour de lui avec des lunettes sombres. Il voyait tous ces méchants qui réussissaient. Pourtant bien. C'est pas juste. Ils n'ont qu'à faire que de Dieu et ils n'ont jamais d'ennui, dit-il. Ils ne s'embarrassent pas des règles morales et pourtant tout semble aller bien pour eux. Ils n'ont aucun respect pour les autres et pourtant ce sont les autres qui supportent ce sont les autres qui supportent les coups durs et pas eux ceux qui font les. Ils n'ont ni foi ni loi et pourtant ils s'enrichissent continuellement. Voilà. Monsieur Asnif, il regarde autour de lui et il constate qu'on peut être à la fois insolent et bien portant, mécréant et important, arrogant et florissant, méchant et content. Alors que lui, monsieur Asnif, il est honnête mais barré de dettes, il est fidèle mais pas la vie belle, il est innocent mais mécontent. Et il se dit que c'est bien décevant. À quoi bon rester honnête? À quoi bon se donner de la peine à mener une vie droite? À quoi bon rester fidèle à Dieu? Est-ce pour rien que je fais tout cela? Et il conclut cette première partie, verset 14, sur ce constat qui était autrefois le sien. Dans ce psaume, dit-il, « Tous les jours, j'endure toutes sortes de peines. Chaque matin, les châtiments sont là. » Voilà son attitude lorsqu'il avait ses lunettes sombres. Et je pense que son témoignage nous touche, parce que, ce n'est pas vous, mais moi, ça m'arrive, hein, peut-être pas vous, mais on se pose ce genre de questions, n'est-ce pas? Je pense que ça vous est arrivé hein, aussi parfois. On observe autour de soi, hein, et puis on se dit, à quoi bon être fidèle à Dieu? Moi, j'ai plus d'ennuis que ceux qui n'en ont rien à faire de Dieu. Et nous voyons leur réussite, nous voyons nos problèmes. Puis on continue à observer, on voit les guerres, le réchauffement climatique, l'insécurité, l'immoralité qui grandit, la persécution peut-être qui vient. Nous voyons toutes les horreurs que l'être humain est capable de faire. Nous voyons l'injustice, nous voyons le mal. Et encore, les difficultés, et ce qui ne va pas, et ce qui va mal, et les difficultés. Et petit à petit, vous voyez, nous nous enfonçons dans notre tristesse, nous enfonçons dans notre désespoir, dans notre malheur. Un peu comme dans cette première partie du psaume. Comme il le dit au verset 2, nous nous sentons glissés. Je ne sais pas si vous êtes déjà arrivé. On se sent glissés. À se morfondre, à voir ce qui ne va pas. Et ce n'est pas seulement qu'on est en train de glisser, mais on glisse, dit-il, loin de Dieu. Et ça, c'est un problème sérieux. Ce n'est pas juste tomber en dépression, là, c'est s'éloigner de Dieu dont il est question, à force de faire ce constat. Mais d'où est-ce que ça vient? Je me demande si parfois on n'a pas, un peu comme ce début de psaume, des regards un peu trop focalisés, notamment sur la réussite de quelques-uns. On fait parfois des lunettes ou des œillères hein, pour ne voir que ce qui ne va pas dans la vie de quelques croyants, ou dans ma vie, et ce qui va bien dans la vie de quelques personne pas très recommandable. Est-ce qu'on n'a pas parfois un peu ces œillères? Il faut l'avouer, hein, on a parfois tendance à ne plus voir que nos problèmes, que nos ennuis, que nos difficultés, que nos malheurs, que nos souffrances. Et est-ce qu'on n'est pas petit à petit en train, en se focalisant là-dessus, de nous aveugler, de nous enfoncer petit à petit dans l'obscurité, de glisser petit à petit, sans nous en rendre compte, dans une attitude du cœur qui nous éloigne petit à petit du Dieu vivant. Et jusqu'au verset 14, dans ce psaume, les regards de monsieur Asnif donc, sont focalisés surtout sur la réussite des méchants, sur les problèmes à lui. Ce sont eux et lui, et il est seul face à eux. Mais au verset 15, il y a un tournant dans le texte. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Il y a un tournant dans le texte. Le verset 15 dit, mais si je me décidais à parler comme eux, je trahirais la génération de tes enfants. À un moment donné, l'auteur de ce psaume s'est dit, stop, je renonce à aller plus loin. Je renonce à parler comme les méchants. Monsieur Asnif a renoncé à aller plus loin. Et monsieur Asaf s'est ressaisi. Il a dit stop. Et c'est intéressant de voir ce qui l'a amené à changer justement de voix, changer de regard aussi. Il dit, je n'ai pas voulu trahir la génération de tes enfants. C'est une phrase étonnante. Mais c'est intéressant, parce que pour la première fois du psaume, je ne sais pas si vous avez remarqué, M. Asaph utilise la deuxième personne du singulier. Il introduit Dieu dans la conversation. Tes enfants. Jusqu'avant, il parlait de ce qu'il voyait autour de lui. Ah, j'en ai... Ça se passe eux. Et là, il dit, la génération de tes enfants. Il n'y a plus juste M. Asaph et les autres. Il y a aussi, et les méchants en particulier, il y a tes enfants, c'est-à-dire les enfants de Dieu. Il y a toi, toi mon Dieu. Et là, vous voyez, M. Asnif se rend compte qu'il n'est plus tout seul face à eux, face aux méchants, face à ceux qui semblent réussir alors qu'ils n'en ont rien à faire de Dieu. Et il introduit Dieu dans la conversation et ça change tout. Il dit tu à Dieu. Et de façon surprenante, la première fois qu'il dit tu, c'est lorsqu'il va mentionner les autres qui partagent sa foi en Dieu. Le psalmiste dit, si je me décidais à parler comme eux, les méchants, je trahirais la génération de tes enfants. C'est d'ailleurs un des rares passages de l'Ancien Testament où on parle des croyants comme étant les enfants de Dieu. Les enfants du Seigneur. On en parle beaucoup dans le Nouveau Testament, mais dans l'Ancien Testament, c'est moins souvent. C'est d'abord en pensant à ceux qui partagent sa foi que ses regards se tournent vers Dieu. C'est d'abord en considérant ses frères et sœurs croyants qu'il peut dire « tu » à Dieu. Et je crois que parfois dans nos vies aussi, nous trouvons, il y a des moments où on n'arrive plus à trouver la force pour regarder à Dieu. Je ne sais pas si vous êtes déjà arrivé, on se sent tellement alourdi par le poids du mal que nous n'arrivons plus à lever les yeux. Mais là, peut-être parfois la tête courbée, nos regards croisent des pieds, d'autres pieds. Ce sont ceux de mes frères et sœurs qui marchent à mes côtés, qui sont là. Et je me dis que je ne suis plus seul. Je ne suis pas tout seul. Ils sont sur le même sentier. Je les vois. Et j'entends leurs prières. Je vois leur foi. J'entends leurs témoignages. Et je me dis que je ne peux pas m'arrêter là. Qu'il me faut au moins continuer de marcher avec eux. Et si je n'arrive pas encore à lever les yeux vers Dieu, je peux au moins marcher avec eux. Et je ne m'en rends pas toujours compte, mais ils sont là aussi pour m'encourager dans ma marche. Ils sont là pour ça. Dieu les utilise pour m'accompagner vers lui, pour continuer la marche jusqu'à ce que je parvienne à nouveau à lever la tête. Jusqu'à ce que j'entre de nouveau dans le sanctuaire. C'est ce qu'il va dire dans la suite. Et je crois que là aussi, il faut se rappeler que ceux qui partagent notre foi en Jésus-Christ, ceux qui sont là autour de nous, c'est important. C'est important de s'entourer de frères et sœurs, parce que justement dans ces moments où parfois on n'arrive plus seul à lever les yeux, ils sont là pour nous rappeler et nous ramener vers Dieu. Et ça, c'est la force de l'Église, c'est la force de la vie en communauté, la force de vivre notre relation à Dieu. Non pas tout seul, mais avec des frères et sœurs bien concrets pas juste derrière un écran, mais qui seront là pour nous dire, hey, comment ça va? On peut prier ensemble, on peut s'encourager. Et si la présence donc des enfants de Dieu aux côtés de Monsieur Asaph l'a aidé à ne pas chuter, à poursuivre le chemin, dit-il, dans ce psaume, le véritable changement de perspective s'est fait ailleurs. Parce que là, oui, j'ai plus mes lunettes, mais je vous vois pas. Je vois encore flou là. Parce que moi, je suis bien myope. Quoi, je vous vois, mais pas très très bien. Je vois qu'il y a des gens à côté de moi, mais c'est encore flou, hein. Et le véritable tournant, et d'ailleurs je me rapproche un peu pour lire mes notes, le véritable tournant dans le cheminement de Monsieur Asaph, c'est au verset 16 et 17 dans ce psaume. Il dit « J'ai essayé de comprendre, mais tout cela m'a paru difficile jusqu'à ce que j'entre dans le sanctuaire de Dieu. Et j'ai alors compris. » C'est là le tournant. La présence de ses frères et sœurs ont poussé le psalmiste vers Dieu, vers la présence de Dieu. Le sanctuaire dans l'Ancien Testament, c'était le tabernacle, puis ensuite le temple, c'est le lieu par excellence de la présence de Dieu, où on vient ensemble pour trouver la présence de Dieu, pour louer Dieu, pour rencontrer le Dieu saint avec tous les fidèles. Nous, on vit à une époque où il n'y a plus de temple, de tabernacle à Jérusalem, parce que en Jésus-Christ, le temple de Dieu, c'est vous et moi, c'est nous tous. Nous sommes le temple de Dieu. C'est une grâce incroyable. L'Église, avec un grand E universel à travers le monde, est le temple de Dieu. Le peuple de Dieu, c'est son temple désormais. Un temple fait de pierres vivantes. Et c'est que lorsque M. Asaph fait le choix d'aller au sanctuaire, d'aller là où on fixe les regards vers Dieu, que sa vision va être renouvelée. Et à partir de ce verset 17, il voit clairement, ça y est, ah, il a revêtu les lunettes de Dieu. Là, je vous vois bien, c'est super. Il a compris, enfin. Dieu a transformé son regard. Et je ne sais pas, vous avez remarqué, c'est quand même frappant dans ce psaume, son amertume qui était celle au début du psaume, il se plaint, c'est « Ah, pourquoi je... » Et à la fin du psaume, c'est la joie, c'est le réconfort, c'est l'espérance. Pourquoi? Parce qu'il choisit à un moment donné d'arrêter de regarder à la réussite des méchants, d'arrêter de regarder uniquement avec ses lunettes sombres, arrêter de se focaliser avec ses œillères sur tout ce qui ne va pas, sur ses malheurs, sur ses ennuis, mais de venir vers Dieu, de lever les yeux avec les autres enfants de Dieu et de regarder à lui. C'est un bon exemple pour nous. Apprendre à lever les yeux. Je crois que lorsqu'on est envahi par... Parfois on s'enfonce, on se sent glisser dans ces pensées négatives de découragement, où on voit tout ce qui ne va pas dans notre monde et puis... Il y a bien des occasions, hein, le péché est présent dans notre monde et il y a bien des occasions de voir ce qui ne va pas. Mais c'est important d'avoir ce réflexe d'en parler à Dieu, de lever les yeux, de méditer sa parole. Même des fois, s'il s'agit simplement de lui dire « Seigneur, pourquoi ?»« Oh Seigneur, tu vois, je n'arrive pas là, c'est dur pour moi. Tu vois ma tristesse, tu vois ma douleur. » Mais le fait de faire cela, on a déjà levé les yeux vers Dieu, on s'est déjà adressé à lui. Ce n'est plus la même attitude que de dire « Ah, ça, ça ne va pas, ça, ça ne va pas. » Vous voyez la différence? On l'apporte à Dieu. C'est un choix à faire. De prendre ce temps de se tourner vers lui. Et parfois, ça commence comme dans les psaumes par dire « Seigneur, je ne comprends pas. Pourquoi? Pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi je vis ça ?» Mais déjà là, c'est un acte de foi. Jésus lui-même l'a fait sur la croix. C'est s'adresser à Dieu en sachant qu'il nous entend. Et quand on fait cela, on le voit dans les psaumes, il n'y a pas que ce psaume-là, mais c'est fréquent, il vient changer notre regard. Il vient nous faire voir les choses autrement. Et à partir de verset 17, dans le psaume, monsieur Asaph, qui était monsieur Asnif, hein, il devient monsieur Alléluia. Celui qui choisit de célébrer le Seigneur, de laisser transformer son regard. Et ça, on voit ça au verset 17, donc à 28. Monsieur Alléluia témoigne de la manière dont maintenant, après avoir fait ce passage par le sanctuaire de Dieu, où il a changé son regard, Dieu lui a changé son regard, maintenant, voici comment il voit les choses, dit-il. Et on peut remarquer deux choses en particulier dans son changement de regard. Un changement de regard sur l'avenir et un changement de regard aussi sur sa vie aujourd'hui. Premièrement, il cesse de se borner à voir que la situation immédiate. Mais Dieu lui ouvre son horizon et il l'invite à voir l'avenir sous le regard de Dieu. Et au verset 17 à 20, en premier lieu, il va dire, voici en fait, j'avais oublié, mais le Seigneur me l'a rappelé, le sort des méchants. Il dit, voilà, l'avenir des méchants, et il n'est pas si rose en fait qu'il en a l'air. Il comprend que ceux qui font le mal finissent par en subir les conséquences. Ah, peut-être que maintenant ça semble aller bien pour eux. Mais dit-il au verset 19, en peu de temps, ils sont réduits à rien. Parce que si notre Dieu est patient, s'il est riche en bonté, s'il est lent à la colère, il met aussi une limite au mal. Il finit toujours par intervenir. Et ça, vous pouvez voir dans l'histoire combien de dictateurs ont fini par être renversés par ceux qu'ils oppressaient. Combien de personnes corrompues ont fini un jour par être rattrapées par leur malhonnêteté et ont été arrêtés, perdant tout ce qu'ils avaient, en premier leur position sociale. Combien de gangsters ont fini par mourir sous les balles qu'on leur renvoyait? Et même les plus grands malfaiteurs de l'histoire de l'humanité ne sont jamais réellement pu aller au bout de leurs plans les plus sordides. Si vous pensez aux persécutions, par exemple, qu'ont fait les empereurs romains, les persécutions des chrétiens, ils n'ont jamais détruit l'Église. L'Église est toujours là, n'est-ce pas? Vous pensez aussi aux horreurs commises par Hitler. Hitler qui voulait anéantir le peuple juif. Le peuple juif n'a jamais été aussi puissant qu'aujourd'hui dans l'histoire. Notre Dieu met une limite au mal. Et s'il ne l'avait pas fait, ça ferait depuis longtemps, je pense que l'humanité se serait déjà autodétruite, hein. Alors certes, sur le moment, on voit le mal qui nous décourage. Les méchants peuvent sembler impunis. Mais lorsque nous regardons à Dieu, il nous montre qu'ils sont sur une pente glissante, comme dit le texte. Notre Dieu nous fait voir plus loin. Plus loin qu'ici-bas, parce que aussi la vie est courte, elle est légère. Et en un instant, la mort peut surprendre. La richesse du riche ne lui sert plus à rien. Le succès des stars peut s'évaporer en un instant et celui qui s'éloigne de Dieu est réduit à rien. En un instant, il disparaît. Et avec lui, tout ce qui comptait, tant pour lui. Et face à ça, Dieu fait voir, au contraire, l'avenir de celui qui s'accroche au Seigneur, de qui place sa confiance au Seigneur. Et on trouve ça à partir du verset 23. Alors que le méchant va à sa ruine, dit le texte, Dieu fait comprendre à monsieur Asaph quelle est la certitude du croyant. Et il la proclame, verset 24, « Tu me conduis selon ton conseil et tu me recevras avec les honneurs. » D'autres traductions disent « Tu me prendras dans la gloire. » Alors que monsieur Asnif se plaignait d'endurer quotidiennement toutes sortes de peines, il disait « Ouais, j'arrête pas de vivre, c'est difficile tous les temps, tous les matins, mes souffrances se renouvellent. » Monsieur Alléluia, il voit plus loin. Il voit la gloire qui l'attend. Il voit l'honneur que Dieu lui réserve. Et en Jésus-Christ, je crois que lorsqu'on réalise ce que Dieu a fait pour nous, ce qu'on réalise, ce qu'il nous offre en Jésus-Christ, on a aussi une incroyable espérance. Nous avons une espérance qui dépasse même la mort. une espérance pour l'éternité. Au-delà des souffrances présentes, il y a le plan parfait de Dieu. Et le Seigneur, lorsque nous tournons nos regards vers lui, nous fait voir Jésus-Christ. Dieu venu à notre rencontre, un Dieu qui nous aime tellement qu'il a donné la vie de son Fils pour nous sauver. Pour te sauver, pour t'offrir une éternité dans sa glorieuse présence. C'est l'Apocalypse parle de cette nouvelle création où il n'y aura plus ni deuil, ni souffrance, ni pleurs. Ça, c'est notre espérance, lorsque nous plaçons notre confiance en Dieu. Ça, c'est une certitude que nous avons lorsque nous plaçons notre foi en Jésus-Christ. Et c'est pour ça que ça vaut la peine de persévérer. Ce n'est pas juste pour un temps, c'est pour l'éternité que nous vivrons cela. Le Seigneur vient transformer nos regards lorsque nous tournons nos regards vers lui, vers sa parole. Il nous rappelle l'espérance qui est la nôtre. Et on apprend à plus voir uniquement sur ce qui se passe au moment présent, mais à regarder au plan de Dieu, glorieux, pour l'avenir de ce monde. Un plan de justice, dans lequel aussi les méchants ne restent pas impunis, mais aussi un plan de salut pour ceux qui placent leur foi en Jésus-Christ. Pour ceux qui se laissent remplir par l'espérance que nous avons en Jésus-Christ. Oui, premier changement dans le regard. Le Seigneur nous ouvre les horizons et nous fait voir aussi au-delà du temps présent. Mais est-ce que ça veut dire que, ouais, on doit juste attendre de vivre sur cette terre jusqu'en enfin on soit délivré pour l'éternité, pour pouvoir être heureux? Non. Et ça aussi, dans le psaume, c'est intéressant. Il y a une deuxième chose qui change dans le regard de M. Asaph, c'est sur le présent. Comment est-ce qu'il voit le présent? Et vous trouvez ça notamment à partir du verset 25. Il dit « Qui dans les cieux me viendrait en aide sinon toi? Et sur cette terre, que désirer de plus, puisque je suis avec toi ?» Nous ne sommes pas contraints de vivre malheureux sur cette terre en attendant enfin de vivre le bonheur au ciel. Hein. Ce n'est pas ça le plan de Dieu pour notre vie sur cette terre. Le psaume nous le rappelle, se termine sur cet élan de joie où le psalmiste il évoque son bonheur présent. Parce qu'il a tourné ses regards vers Dieu, le Seigneur n'a pas seulement changé son regard sur sa situation, sur l'avenir, mais aussi sur sa vie actuelle. Et le Seigneur, lorsque nous faisons cela, il nous aide à découvrir ce qui peut nous permettre de vivre heureux dès aujourd'hui, malgré le fait que, est-ce que les méchants ont disparu? Est-ce qu'ils ont disparu tout d'un coup? Non, ils sont probablement toujours là. Tout ce qu'il disait au début du psaume est probablement toujours autour de lui. Mais son regard a changé, parce qu'il a levé les yeux vers le Seigneur. Et le Seigneur nous aide à découvrir ce qui peut nous permettre de vivre heureux dès aujourd'hui, malgré les peines et les difficultés. Il nous fait prendre conscience de la chance que nous avons. Il nous fait réaliser que nous avons toutes les raisons d'être heureux. Et comment est-ce qu'il s'y prend? En nous disant, ouais, regarde le contexte dans lequel tu vis, oh, tu as une belle maison. Ou t'as... Non. Tout simplement, il nous fait voir qui il est. Parce que laissez-moi vous révéler un scoop. Hein. Lorsque vous regardez à Dieu, vous voyez Dieu. Ça paraît évident, hein, mais c'est pourtant fondamental. Lorsque nous regardons à Dieu, il se laisse voir, il ne se cache pas, il nous montre qui il est, il nous montre sa bonté. Il nous rappelle sa puissance, on l'a chanté, sa sainteté, sa grandeur. Il nous illumine de sa lumière, il nous comble de son amour, il nous révèle sa magnificence, il nous étonne par sa splendeur, il nous montre Jésus-Christ, il nous rappelle la grandeur, l'immensité de son plan pour nous. Et c'est là, alors que nous contemplons notre Dieu, que nous réalisons que rien ni personne d'autre ne peut faire notre bonheur. Nous comprenons que ce Dieu-là est avec nous et qu'il est notre bien le plus personnel, notre rocher indestructible. Écoutez ce que Monsieur Alléluia en dit. Il dit « Tu m'as saisi la main droite, et tu me conduis selon ton conseil, mon corps s'épuise. » Ah, mon corps s'épuise, on sait tous qu'on, surtout avec les années, ça ne va pas en s'améliorant. Mon cœur aussi. Ça pas, Voilà, il n'y a pas, la situation autour de lui n'a pas changé, hein. Mais mon appui, mon bien le plus personnel, c'est Dieu, pour toujours. Ou encore, dit-il, mon bonheur à moi, c'est d'être près de Dieu. Mon bonheur à moi, c'est d'être près de Dieu. Est-ce que c'est les mots du même homme, de la même personne ici, qui avait commencé ce psaume? Celui qui disait son amertume, sa tristesse, quelques versets plus haut, c'est quand même étonnant, hein. Monsieur Asnif, hein, s'est transformé en Monsieur Alléluia. Celui qui pleurait sur son sort a retrouvé le sourire en louant Dieu. Celui qui voyait qu'injustice, difficulté, a fait ce choix de se tourner vers son Dieu. Et il lui a ouvert les yeux. Il a modifié sa perspective. Il a rappelé que son bonheur se trouve pas dans les richesses, se trouve pas dans la santé, se trouve pas dans la réussite, mais dans la présence de Dieu. Et je crois qu'on a un bel exemple là qui nous invite à suivre cet exemple. Ce psaume n'est pas là juste pour nous rappeler ce qu'a vécu ce monsieur Asaph, mais pour nous inviter à faire ce même choix. C'est vrai qu'on est encore dans ce monde qui soupire après la révélation de Dieu. Et parfois, on allume la télé, les médias, et tout ce qu'on voit, c'est mal, souffrance, des guerres, encore ce matin, si vous avez vu les infos, encore des bruits de guerre. Et les médias peuvent parfois nous tirer un peu vers le bas, hein. Mais c'est bien de temps en temps d'arrêter la télé des mauvaises nouvelles, hein, de débrancher l'Internet des malheurs humains et de lever les yeux, de regarder à Dieu, de méditer sa parole, de contempler qui est Dieu, de contempler son plan pour nous, de méditer sur la grandeur de son œuvre pour qu'il nous laisse transformer notre regard, changer notre perspective. Et faire aussi le choix de louer, hein. C'est important de faire ce choix, de le louer chaque jour, d'imprégner nos foyers par des chants de louange en son honneur. Des chants qui chantent sa grandeur, sa souveraineté, sa majesté, sa puissance, son amour, sa bonté. De rejoindre aussi nos frères et sœurs pour le louer avec eux, comme on le fait ce matin ensemble. Se mettre à l'écoute du Seigneur ensemble. Laissez le Saint-Esprit nous imprégner de la présence de Dieu. Laissez Saint-Esprit influencer nos pensées par ce qui est bon, par ce qui est utile, par ce qui est glorieux. Contemplez ensemble Jésus-Christ. Regardez son amour, sa compassion. Regardez à la croix. Regardez à sa victoire sur la mort et le péché. Contemplez sa résurrection. Levez les yeux. Levez les yeux. Notre Dieu est là. Il ne veut pas que quoi que ce soit puisse nous écarter du bonheur de sa présence. Je me demandais peut-être si le groupe de louanges, on va prendre ce chant qui dit « Ouvre les yeux de mon cœur ». C'est quelque chose qu'on trouve dans l'Épître aux Éphésiens aussi, à la fin du chapitre 1 tout à l'heure que j'ai lu. Paul dit qu'il ouvre vos yeux, les yeux de votre cœur littéralement, à sa lumière, afin que vous compreniez à quelle espérance il vous a appelé. Peut-être je vous invite, si vous voulez, à nous mettre dans la prière devant notre Dieu ce matin, et peut-être que, si vous le souhaitez, répondre à cette parole de Dieu, « Seigneur, oui, je veux te demander de venir encore ce matin ouvrir mes yeux pour contempler qui tu es, contempler ta gloire. Je veux être non pas Monsieur Asnif, mais Monsieur Alléluia. » Peut-être qu'on peut simplement se lever à sa place si vous voulez répondre à cette parole en disant « Oui Seigneur, je veux répondre à ta parole ce matin. » En disant « Ouvre les yeux de mon cœur, je veux voir ta gloire, je veux voir ta grandeur, je veux voir ta présence, je veux voir qui tu es. Pardon, Seigneur, pour tout ce qui n'est pas à ta gloire dans ma vie. Pardon toutes les fois où je reste focalisé sur ce qui ne va pas dans ce monde, où ce que je me laisse glisser, entraîner bouleverser. Ces malheurs et ces choses terribles qui se passent aussi, Seigneur, mais qui... Seigneur, aide-moi à changer mon regard. Non pas à devenir aveugle envers ce qui se passe, Seigneur, mais à voir tout cela avec ton regard. Que ton regard, Seigneur, vienne me rappeler que mon bonheur, c'est d'être près de toi. Mon bonheur, c'est prendre ce temps pour te louer et t'adorer. Amen. Amen. On va le chanter ensemble. Ouvre les yeux de mon cœur.
Ouvre les yeux de mon cœur. Ouvre les yeux de mon cœur.
Contempler son œuvre, c'est aussi à travers la Sainte Cène, le repas du Seigneur que nous allons prendre maintenant. Je vais demander à l'équipe aussi de venir, ceux qui sont chargés de distribuer la Sainte Cène. Et c'est vrai qu'on Ce repas, ce pain, cette coupe nous rappellent aussi la grandeur du plan du salut en Jésus-Christ. Épître aux Éphésiens, chapitre 1, verset 6 à 10, nous dit « Louons donc Dieu pour le don magnifique qui nous a généreusement fait en son Fils bien-aimé. Car par le sang versé du Christ, nous sommes délivrés du mal et nos péchés sont pardonnés. » Amen. Dieu nous a ainsi manifesté la richesse de sa grâce, qui nous a accordé